Chapitre 8. Société ternaire et colonialisme, le cas de l'Inde. Nous allons maintenant étudier le cas de l'Inde, qui est particulièrement important pour notre enquête. Ce n'est pas seulement que la République indienne est, depuis le milieu du XXe siècle, la plus grande démocratie du monde et s'apprête à devenir le pays le plus peuplé de la planète au XXIe siècle. Si l'Inde joue un rôle central dans l'histoire des régimes inégalitaires, c'est aussi parce que le pays est étroitement associé à son système de caste, qui est généralement considéré comme une forme de régime inégalitaire particulièrement rigide et extrême, et dont il est essentiel pour notre enquête d'analyser les origines et les particularités. Outre son importance historique, le fait central est que le système des castes a laissé des traces dans la société indienne contemporaine incomparablement plus fortes que les inégalités statutaires issues des sociétés d'ordres européennes, qui ont presque entièrement disparu si l'on excepte des cas largement symboliques comme les lords héréditaires britanniques. Il nous faut donc tenter de comprendre dans quelle mesure ces évolutions distinctes s'expliquent par des différences structurelles anciennes entre les ordres européens et les castes indiennes, ou bien plutôt par des trajectoires sociopolitiques spécifiques et des bifurcations distinctes. Nous allons voir que la trajectoire inégalitaire indienne ne peut être correctement analysée qu'en la replaçant dans le cadre plus général de la transformation des sociétés trifonctionnelles anciennes. Par comparaison aux trajectoires européennes, la particularité du cas indien tient notamment au fait que la construction de l'État a suivi une évolution spécifique au sein de cet immense territoire. En particulier, le processus de transformation sociale, de construction étatique et d'homogénéisation des statuts et des droits, extrêmement disparates en Inde, fut interrompu par la puissance coloniale britannique qui entreprit à la fin du XIXe siècle de prendre la mesure et le contrôle de la société de caste, notamment dans le cadre des recensements menés de 1871 à 1941, ce qui a contribué à rigidifier le système et à lui donner une existence administrative imprévue et durable. Depuis 1947, l'Inde indépendante a tenté de corriger avec les moyens de l'état de droit l'héritage de discriminations anciennes, en particulier en matière d'accès à l'éducation, à l'emploi public et aux fonctions électives. Ces politiques sont loin d'être parfaites, mais elles sont riches d'enseignements, d'autant plus que ces réalités discriminatoires concernent tous les pays, et notamment les pays européens, qui commencent tout juste à découvrir certaines formes d'antagonisme identitaire et multiconfessionnel que l'Inde connaît depuis des siècles. La trajectoire inégalitaire indienne a été profondément affectée par sa rencontre avec le monde extérieur, et notamment avec l'étranger lointain. À son tour, le reste de la planète a beaucoup à apprendre de l'expérience de l'Inde. L'invention de l'Inde, premier repère. D'aussi loin que l'on puisse remonter dans les sources démographiques, on constate que les territoires actuellement occupés par la République indienne et la République populaire de Chine ont toujours regroupé des populations plus importantes que celles qui peuplaient l'Europe et les autres régions du monde. En 1700, l'Inde comptait autour de 170 millions d'habitants, contre environ 140 millions en Chine et 100 millions en Europe, avant que la Chine ne prenne la première place au cours des 19e et 20e siècles. En raison de la forte décroissance de la population chinoise en cours actuellement, due notamment à la politique de l'enfant unique mise en place en 1980, l'Inde devrait redevenir avant la fin des années 2020 le pays continent le plus peuplé de la planète et le rester pour la suite du XXIe siècle avec près de 1,7 milliard d'habitants autour de 2050 si l'on en croit les dernières projections réalisées par les Nations Unies. Voir graphique 8.1. Pour expliquer les exceptionnelles densités humaines chinoises et indiennes, de nombreux travaux, à l'image de ceux de Fernand Braudel dans « Civilisation matérielle, économie et capitalisme », ont insisté sur la diversité des régimes alimentaires. C'est notamment le goût immodéré des Européens pour la viande qui expliquerait la plus forte densité asiatique, compte tenu du plus grand nombre d'hectares nécessaires pour produire des calories animales par comparaison aux calories végétales. Dans le cadre de cette enquête où je mets l'accent sur l'histoire des régimes inégalitaires et où nous avons vu l'importance cruciale de la construction de l'État centralisé pour l'évolution de la structure des inégalités, La première question qui se pose est de comprendre comment une population aussi considérable que celle de l'Inde, déjà plus de 200 millions d'habitants à la fin du XVIIIe siècle, à un moment où le pays européen le plus peuplé, la France, en comptait moins de 30 millions et rentrait en révolution, a réussi à s'organiser pour coexister pacifiquement au sein d'une même construction étatique. Le premier élément de réponse est que l'unité indienne est en réalité très récente. L'Inde, en tant que communauté politique et humaine, s'est construite graduellement au fil d'une trajectoire sociopolitique complexe. De multiples structures étatiques y ont coexisté pendant des siècles. Certaines de ces constructions politiques se sont étendues sur d'immenses parties du sous-continent indien, comme l'Empire Maurya au IIIe siècle avant l'ère commune, AEC, ou l'Empire Moghol à son apogée au XVIe et XVIIe siècle de notre ère. Mais elles n'ont pas duré et ne couvraient jamais la totalité de l'Inde actuelle. Lorsque le British Raj, l'empire colonial britannique en Inde, cède la place à l'Inde indépendante en 1947, le pays comprend encore 562 États princiers et entités politiques diverses placées sous la tutelle du colonisateur. Certes, les Britanniques exercent leur administration directe sur plus de 75% de la population du pays et les recensements conduits de 1871 à 1941 sont organisés dans l'ensemble du territoire, y compris dans les États princiers et territoires autonomes. Cette administration s'appuie toutefois largement sur les élites locales et elle s'apparente souvent à un simple maintien de l'ordre. Les infrastructures et services publics sont tout aussi indigents et inexistants que dans les colonies françaises. C'est à l'Inde indépendante qu'il reviendra, après 1947, de réaliser l'unification administrative et politique du pays dans le cadre d'une démocratie parlementaire pluraliste et vivante. Il est permis de penser que cette pratique politique a elle-même été influencée par le contact direct avec l'expérience britannique et son modèle parlementaire. Il faut toutefois insister sur le fait que l'Inde a développé le parlementarisme à une échelle humaine et spatiale inconnue dans l'histoire, ce que l'Europe tente de faire à sa façon avec l'Union européenne et le Parlement européen, mais avec une population plus de deux fois plus faible que celle de l'Inde et un degré d'intégration politique et fiscale beaucoup plus limité. Et ce que le Royaume-Uni, qui s'est séparé de l'Irlande au début du XXe siècle et peut-être de l'Écosse en ce début de XXIe siècle, a bien du mal à préserver au niveau des îles britanniques. Au XVIIIe siècle, alors que les Britanniques s'apprêtaient à pénétrer plus avant dans le pays, l'Inde était divisée en une multitude d'États, dirigés par des princes hindous ou musulmans. L'islam avait commencé à se diffuser dans le nord-ouest de l'Inde à partir des 8e-10e siècles, avec la formation de premiers royaumes suivis de la prise de Delhi par des dynasties turco-afghanes à la fin du 12e siècle. Le sultanat de Delhi a ensuite connu de multiples extensions et transformations au 13e et 14e siècle, avant que de nouvelles vagues migratoires turco-mongoles conduisent au développement de l'Empire moghol, qui atteint son extension maximale dans le sous-continent indien entre 1526 et 1707. Dirigé depuis Agra, puis Delhi, par des souverains musulmans, l'État moghol était multiconfessionnel et multilinguistique. Outre les langues indiennes pratiquées par la grande majorité de la population et les élites hindoues, la cour moghole pratiquait à la fois le perse, l'ourdou et l'arabe. Il s'agissait d'une construction étatique complexe et instable, en perte de vitesse à partir de 1707, et concurrencée en permanence par des royaumes hindous, comme l'Empire Marathe, établi initialement dans l'actuel Maharashtra, autour de Mumbai, avant de s'étendre entre 1674 et 1818 dans le nord et l'ouest de l'Inde. C'est dans ce contexte de concurrence interétatique entre États musulmans, hindous et multiconfessionnels et d'effondrement progressif de l'Empire moghol que les Britanniques prirent graduellement le contrôle de l'ensemble de l'Inde, d'abord sous la conduite des actionnaires de l'East India Company, EIC, de 1757 à 1858, puis dans le cadre de l'Empire des Indes, de 1858 à 1947, rattaché directement à la couronne et au Parlement britannique, après que la révolte des Sipayes, en 1857, a montré aux yeux de Londres le besoin d'une administration directe. Les Britanniques en profitèrent pour déposer en 1858 le dernier empereur moghol, qui ne régnait plus que de façon nominale, sur un petit territoire autour de Delhi, mais qui représentait toujours une autorité morale et le symbole d'une possible souveraineté autochtone pour les révoltés hindous et musulmans, qui tentèrent sans succès de se placer sous sa protection pour prendre la tête du combat contre le colonisateur européen. De façon générale, la très longue histoire commune entre hindous et musulmans en Inde, du sultanat de Delhi à la fin du XIIe siècle jusqu'à la chute finale de l'Empire moghol au XIXe siècle, a conduit à un syncrétisme culturel et politique unique entre hindouisme et islam dans le sous-continent indien. Une partie minoritaire mais significative des élites militaires, intellectuelles et commerciales indiennes s'était graduellement convertie à l'islam et avait noué des alliances avec les conquérants turco-afghans et turco-mongols, qui étaient démographiquement très peu nombreux. Les sultanats musulmans, à mesure qu'ils s'étendaient vers le centre et le sud de l'Inde au XVIe siècle, aux dépens des royaumes hindous, et en particulier du royaume de Vijayanagara, dont l'actuel Karnataka, entretenaient des relations de proximité avec les élites hindoues et les lettrés que l'on retrouvait dans les différentes cours, avec des savants brahmanes travaillant parfois pour des sultans musulmans et des chroniqueurs persans fréquentant les différents palais. La proximité était beaucoup plus forte qu'avec les colonisateurs européens, en particulier les Portugais établis sur les côtes indiennes à partir de 1510, notamment à Goa et Calicut, qui cherchèrent à accabler les royaumes musulmans et à prendre parti pour les hindous et le royaume de Vijayanagara, tout en refusant l'échange matrimonial proposé par ce dernier. Le Portugal voulait bien recevoir une princesse hindoue, mais refusait d'envoyer une princesse portugaise. Les moments d'antagonisme entre hindous et musulmans étaient également bien présents, d'autant plus qu'une grande partie des conversions vers l'islam venaient des couches les plus défavorisées de la société hindoue, qui voyaient ainsi une façon de fuir un système de caste particulièrement hiérarchique et inégalitaire. Les musulmans sont encore aujourd'hui surreprésentés au sein des groupes les plus pauvres de la société indienne. Et nous verrons dans la quatrième partie de ce livre que l'attitude des nationalistes hindous à leur égard constitue l'un des éléments les plus structurants des clivages politiques et électoraux indiens à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, suivant des termes qui ne sont pas totalement incomparables à certaines évolutions observées en Europe, à la différence importante près qu'il existe des populations de confession musulmane depuis des siècles en Inde et depuis seulement quelques décennies en Europe. À ce stade, précisons simplement que les recensements décennaux menés de 1871 à 1941 dans l'Empire des Indes, puis de nouveau tous les 10 ans, de 1951 à 2011, dans l'Inde indépendante, permettent de prendre une première mesure de la diversité confessionnelle du pays et de son évolution. Voir graphique 8.2. On constate que les musulmans représentaient environ 20% des quelques 250 millions de personnes recensées lors des premiers recensements coloniaux de 1871 et 1881, et que cette proportion atteignait 24% en 1931 et 1941, compte tenu d'une natalité légèrement plus importante. En 1951, lors du premier recensement organisé par l'Inde indépendante, la proportion de musulmans était tombée à 10%, ce qui s'explique à la fois par la partition du pays, le Pakistan et le Bangladesh, où les musulmans étaient les plus nombreux, ne font plus partie de l'Inde et ne sont donc plus couverts par le recensement, et par les transferts de populations hindoues et musulmanes consécutifs à la partition. La proportion de musulmans a par la suite légèrement progressé, du fait d'une natalité un peu supérieure à la moyenne, atteignant 14% lors du recensement de 2011 au sein d'une population totale dépassant alors 1,2 milliard d'habitants. Les religions autres que l'hindouisme et l'islam ont toujours regroupé autour de 5% de la population dans les recensements menés entre 1871 et 2011. En pratique, il s'agit principalement de populations sikhes, chrétiennes et bouddhistes, toutes trois en proportion comparable, ainsi que des personnes se déclarant sans religion, qui sont très peu nombreuses, toujours moins de 1%. Précisons toutefois que les recensements de l'époque coloniale, ainsi dans une moindre mesure que ceux de l'Inde indépendante, repose sur un mélange complexe entre autodéclaration des identités individuelles et assignation identitaire par les agents recenseurs et les administrations compétentes. Dès lors qu'il n'appartenait pas clairement à une autre religion répertoriée, musulman, sikh, chrétien, bouddhiste, la classification par défaut a généralement conduit à considérer ces individus comme hindous, 72%-75% de la population à l'époque coloniale, 80%-84% sous l'Inde indépendante, y compris lorsque les personnes recensées appartenaient à des groupes parias et discriminés au sein de l'hindouisme, comme les basses castes, les anciens intouchables et les aborigènes. Cette écrasante majorité hindoue est donc en partie artificielle et masque d'immenses disparités de statut, d'identité et aussi de pratiques religieuses au sein du polythéisme hindou. D'autant plus que l'accès aux cérémonies et aux temples eux-mêmes n'est pas le même pour les différents groupes. L'islam, le christianisme ou le bouddhisme se présentent comme des religions égalitaires. Chacun peut en principe accéder à Dieu ou à la sagesse de la même façon, indépendamment de ses origines et de sa classe sociale. Tout du moins en théorie, puisqu'en pratique, ces religions ont également développé des idéologies trifonctionnelles et patriarcales permettant de structurer l'ordre social et politique et de justifier les inégalités sociales et la division sexuelle du travail et des rôles. L'hindouisme lie d'une façon plus explicite les questions religieuses et celles d'organisation sociale et d'inégalité entre classes. Nous reviendrons plus loin sur la façon dont les castes hindoues ont été définies et mesurées dans les recensements coloniaux et la manière dont l'Inde indépendante a développé les catégories de Scheduled Castes, SC, et Scheduled Tribes, ST, soit environ 25% de la population lors des derniers recensements, voire tableau 8.1, dans le but, certes, de corriger les discriminations anciennes, mais en prenant le risque de pérenniser ces catégories. Avant cela, il nous faut d'abord mieux comprendre les origines des castes.